les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le 23 octobre 1959, après Jeanne Moreau, Annie Cordy, Georges Guettari, Marcel Achard et tant d'autres, c'était au tour de Micheline Dax de présenter son programme dans l'émission « Soyez les bienvenus ». Comédienne, chanteuse soprano, légère, précisait-elle, siffleuse virtuose et doubleuse hors pair, Micheline Dax était aussi une amoureuse des chats, comme on le découvrait dans cette émission. Elle y avait convié le réalisateur Yves Ciampi, Ginette Spanier, alors directrice de la Maison Balmain, et aussi deux médecins de ses relations, l'un passionné de chasse à la baleine, l'autre écrivain et peintre à ses heures. Le compositeur Henri Dutilleux confirmait, aux auditeurs qui pouvaient encore en douter, le talent de chanteuse de Micheline Dax, alors que Pierre Tchernia et Maurice Birot lui offraient pour finir un moment d'amicale complicité.
Bonjour Micheline Dax.
Bonjour Gérard.
Micheline Dax, vous êtes la bienvenue dans notre émission. Vous êtes la bienvenue, vous et vos invités. Et avant de débarquer comme ça pendant une heure sur l'antenne, je voudrais savoir, tout de même, enfin je me méfie un petit peu, vous avez complètement la liberté de faire et de dire ce que vous voulez.
Oui, c'était dangereux.
Sur l'antenne, mais oui, je voudrais un petit peu savoir quelles sont vos intentions. Vous avez l'intention
tout à fait honnête.
Quoi. Ça, je n'en doute pas, mais...
Mais encore, eh bien voilà, j'aime les gens à manie, à dada, à obsession. Enfin, en un mot, à passion. La passion mène à tout, et surtout à tout ce qui donne du prix à la vie.
Vous allez donc poser comme ça, vous débotter, des questions à vos invités.
Oui.
Bon, alors avant de vous laisser complètement le micro, je voudrais vous poser aussi une question, Micheline Dax.
Oui.
Est-ce que vous n'avez pas, en dehors de votre métier de chanteuse, de comédienne, de chansonnière presque? Ça ne vous choque pas ce mot?
Au contraire, j'aimerais pouvoir l'être, mais enfin je ne suis pas exactement ça malheureusement.
Parachansonnière, mettons. Est-ce que vous n'avez pas, en dehors de ces activités professionnelles, une manie?
Oh,
extra-professionnelle.
Mais je n'ai que des manies.
Mais une.
Mais une, c'est ma passion des chats. Et en plus, ce qui est grave, je la donne à tous les gens qui m'approchent. Alors si vous ne l'avez pas déjà, venez pendant une heure avec moi, je suis sûre qu'après...
Je repars avec un petit chat sous le bras.
Oh, je crois.
Il y a beaucoup de petits chats, Micheline Dax, dans Paris, comme ça, semés au hasard des rues.
Pas énormément, mais de qualité, vous voyez. Alors, je vais vous présenter mes amis à manie. C'est pas un mot japonais, ça, c'est mes amis qui ont des manies.
C'est en deux mots.
Exactement.
En trois.
Au moins, oui. Et pour vous les annoncer, je ne peux moins faire que de vous citer une lettre de Sido, c'est-à-dire la mère de Colette, qui avait, elle, des manies... presque dangereuse. Enfin, vous allez comprendre tout de suite. Voilà la lettre que Sido a envoyée à l'un des maris de Colette. Monsieur, vous me demandez de venir passer une huitaine de jours chez vous, c'est-à-dire auprès de ma fille que j'adore. Vous qui vivez auprès d'elle, vous savez combien je la vois rarement, combien sa présence m'enchante, et je suis touchée que vous m'invitiez à venir la voir. Pourtant, je n'accepterai pas votre aimable invitation, du moins pas maintenant. Voici pourquoi. Mon cactus rose va probablement fleurir. C'est une plante très rare que l'on m'a donnée et qui, m'a-t-on dit, ne fleurit sous nos climats que tous les 4 ans. Or, je suis déjà une très vieille femme et si je m'absentais pendant que mon cactus rose va fleurir, je suis certaine de ne pas le voir refleurir une autre fois. Veuillez donc accepter, monsieur, avec mon remerciement sincère, l'expression de mes sentiments distingués et de mon regret. Ce billet, signé Sidonie Colette, née Landois, fut écrit par ma mère à l'un de mes maris, le second. L'année d'après, elle mourait âgée de 77 ans. Docteur Soulaire, ôtez-moi d'un doute. toutes, je voudrais savoir, vous ne trouvez pas ça un peu excessif de tout arrêter dans sa vie parce qu'un cactus rose va fleurir?
Non, vous savez, les mentions, les marottes, les violons d'Inde vous mènent très 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 loin.
Mais même le cactus?
Oh, même le cactus. J'ai eu pendant très très longtemps la passion des cactus. Je passais mon temps à les regarder fleurir, à les photographier. Je me levais la nuit pour voir les floraisons nocturnes.
Ah, enfin, non.
Mais si, c'est quelque chose de passionnant.
Vraiment? Et vous avez eu la joie de voir un cactus rose qui fleurit tous les 4 ans?
Oh, tous les 4 ans, non, parce que je crois qu'ils fleurissent quand même tous les ans. Mais enfin...
Ça dépend desquels, dites-moi.
Ça, c'était l'opinion de Colette. Mais enfin, je crois que l'opinion actuelle, les cactus fleurissent comme toutes les plantes quand même tous les ans.
C'est-à-dire qu'on n'arrête pas le progrès, voulez-vous que je vous dise?
Non, voilà.
Mais dites-moi, les passions. Alors, parlez-moi de vos passions à vous, qui vous mènent beaucoup plus loin qu'un jardin même imaginaire.
Oui, en fait, elles me mènent quelquefois aux antipodes.
Alors...
J'ai passé mon voyage de noces sur un catcher dans l'Arctique pour aller à la chasse à la baleine, et je sais que vous voulez me lancer sur la chasse à la baleine.
Oui, mais dites-moi, votre femme a les mêmes manies que vous?
Ben, elle les a épousées avec son mari,
je crois. Il valait mieux, hein, je crois. C'est un cas de divorce, la baleine, pour moi, non?
Ben, je ne pense pas, elle aime ça.
Elle aime la baleine?
Mais bien sûr.
Alors, racontez-moi vos rencontres avec la baleine, ou plus exactement, comment vous est venue la manie de la baleine?
Ben, c'est peut-être une manie.
On peut appeler ça une manie.
Oui, c'est une manie, une grosse manie, mettons.
Une énorme manie.
Enfin, mettons qu'il y ait une manie de collectionneur, d'abord.
De collectionneur, dites-moi,
oui.
Vous avez un grand appartement.
Alors, remarquez que j'ai un cachalot chez moi, il est tout petit, il a 3 semaines, mais enfin, j'ai quand même un petit cachalot, un fœtus. Il est dans l'alcool, il est très bien là où il est.
Pauvre petit.
Non, il est très beau.
Oh, l'alcool tue lentement, comme vous savez.
Je déteste le vin et l'alcool, et vous avez raison de le dire. Bon, mais quoi qu'il en soit, cette manie de collectionneur, évidemment, mène très loin, et j'ai eu la chance, même il y a peu de temps, d'avoir la collection d'un de mes amis, la collection Mandien, qui contient vraiment des pièces extraordinaires.
Toujours de la baleine?
Toujours de la baleine, des manuscrits japonais, pourquoi pas, du siècle dernier, sur la chasse à la baleine.
La baleine japonaise, la pire.
Il y en a des tas. Hein.
Très dangereuse.
Vous croyez?
Je ne sais pas.
Oui, les japonais en mangent.
J'attends que vous me disiez. Vous?
Non, ce sont
les
mêmes
que les
autres.
Est-ce que c'est un animal gentil, câlin? Enfin, moi j'aime les bêtes câlines.
Oh, écoutez, ça ne fait aucun bruit, ça ne fait pas de mal.
C'est-à-dire, quand on a la place, en fait, c'est l'animal domestique rêvé, non?
Pour l'aquarium.
Pour l'aquarium.
Non. Pas jusque-là. Non, mais enfin, disons quand même que c'est un animal fabuleux, un animal qui rapporte énormément d'argent aux armateurs et un animal qui est très utile dans la vie actuelle, de par la quantité de graisse qu'elle peut produire et par ses protéines surtout.
Oui, ça pour la cellulite, je crois qu'elle a. Il n'y a rien à faire.
Il y a une bonne couche de graisse, oui. Oui. Mettons 10 cm, ça masque un peu les formes.
Vous qui chassez la baleine et qui avez rêvé de Moby Dick, je suppose, comme tous les petits garçons, vous n'avez jamais rencontré de baleine blanche, vous me jurez.
Je le jure. Il existe des baleines blanches. Bombard a vu un baleinoptère blanc dans la Méditerranée.
C'était pas un mirage.
C'est sûr. Non, c'est sûr. C'est son film Claude Achrome est là pour le prouver. Et les Japonais, en 1957, ont pêché 2 cachalots blancs.
Et comment ça, qu'est-ce que c'est en fait un cachalot blanc? C'est un albinos, non?
C'est un albinos, tout simplement. Oui, ça n'a absolument
voyez
aucun intérêt.
Sert,
mais enfin, il est exact que le mythe, si vous voulez, de Moby Dick a été basé sur quelque chose de réel, de sérieux.
Oui,
il existe des cachalots blancs.
Alors expliquez-moi. Comment on va du soir au matin et comment vous emmenez votre épouse du soir au matin à la pêche, à la baleine?
Eh bien ça, c'est encore toute une histoire. C'est l'histoire des baleinières, c'est l'histoire de la chasse que relatait le livre de Hachette à la recherche de Moby Dick, enfin sur la chasse au cachalot, surtout dans les eaux de Madère et des Açores.
Alors, un beau jour, vous avez trouvé ce livre, vous avez dit à votre...
Mais non, ce livre, c'est moi qui l'ai fait, voyons.
Non, mais celui qui vous a amené à faire celui-là.
Mais il n'y a aucun livre qui m'a amené à ça.
Mais comment on se réveille pas un matin en disant, je prends mon imperméable et je vais à la
chasse? Mais non, parce que j'avais déjà, il faut vous dire, bien avant, été chasser la baleine, mettons les baleinoptères pour faire plaisir aux scientifiques, les baleinoptères avec les Norvégiens dans l'Arctique. La chasse au cachalot...
Mais enfin, c'est une manie qui vient de loin. Alors.
Oui, ça vient de très loin. Oui, enfin, il y a déjà très longtemps que je vais à la chasse à la baleine. Mais enfin, je crois que ce qui est important de parler, c'est de la chasse au harpon à main, telle que les pratiquent encore les Portugais. Mais non.
C'est pas les Esquimaux.
Mais les Esquimaux, c'est encore autre chose. Les Portugais, dans les zones Madère.
Je n'ai lu que les dépliants, alors je ne sais pas.
Ça n'a absolument rien à voir. Les Esquimaux ne s'attaquent pas aux cachalots. Les Esquimaux s'attaquent à des narvals, à des belugas, et c'est tout.
Ah, mais si vous me le dites, moi je vous crois les belugas, pensez donc, c'est très méchant d'avoir le...
Mais non, c'est pas méchant.
Qu'est-ce que c'est un
beluga? C'est un joli petit animal, un petit marsouin blanc qui est très beau.
Ça n'a rien à voir.
Oh, mettons que ça soit un cétacé, c'est tout.
Bon. Moi je vous crois, moi.
Bon.
Alors, racontez-moi,
Eh bien, on était déjà donc dans une des îles des Açores. En fait, c'était l'île de San Miguel. Et nous partions le matin, de bonne heure. Dès qu'une vigie avait pu signaler un souffle de cachalot, nous partions dans des petites baleinières.
Ah, c'est là où ça fait une petite fontaine.
Mais non, c'est pas de l'eau. Mais non, il faut surtout pas dire que les cachalots ou les baleines soufflent de l'eau. Ça souffle une espèce de vapeur d'eau. Enfin, c'est
un mammifère. Comme les fontaines des Champs-Élysées.
C'est un mammifère. Alors donc, vous ne soufflez pas d'eau par votre nez.
Oh, enfin, rarement. Faire, ça veut, moi, je sais tout faire. Alors.
Oui, ah ben ça, moi, je n'y suis jamais arrivé. Enfin, quoi qu'il en soit, quand un cachalot a été signalé par des vigies, les baleinières, qui sont des petites embarcations appelées canoas, mesurant 10 mètres de long, vont.
Et fragiles, dites-moi.
Très fragiles, oh, très fragiles. Vont donc à la recherche de ces animaux, guidés par radio, car quand même, il y a un petit peu d'électronique dans cette chasse actuelle,
oui,
même si on l'a fait comme autant de Moby Dick.
Mais elles vous fuient quand elles vous arrivent.
Ben, mettons qu'elles vous fuient, mais elles sont obligées de revenir en surface, étant donné qu'elles sont obligées de revenir respirer, ces pauvres bêtes.
Ah oui, ça c'est pas juste quand même.
Ben, c'est bien, et ce qu'il est trahi du reste. Bien, après, ma foi, une fois qu'on les a vus, c'est une question de harponnage. Il suffit d'approcher très près le cachalot. Ça prend quelquefois des heures, quelquefois pratiquement une journée entière.
Oui, il y en a qui se laissent faire et d'autres pas du tout.
Oui, enfin, mettons
et
que...
Et ça pèse combien, ces grosses bêtes-là?
Mettez une tonne par pied, mettez en gros de 50 à 60 tonnes.
Mon Dieu!
Il y a de quoi faire, énormément de produits de beauté. Et vous
oh,
qui êtes assis en face
ça,
de
c'est
moi.
C'est pas vrai.
Mais si, c'est vrai.
Les
fameuses citernes de spermacétis des cachalots qui sentent délicieusement bon sur un plan de dépeçage, surtout lorsque les cachalots ont 2 ou 3 jours. Et je vous affirme que ça sent très bon.
J'y suis déjà.
Eh bien, il faut voir que c'est de cette matière première-là que vous allez tirer ces magnifiques produits de beauté. Pratiquement tous les cosmétiques modernes et de bonne qualité viennent de la baleine. Mettons du cachalot.
Je ne savais pas.
Votre dentifrice.
Nous sommes des produits Notre-Dame, en fait, dérivés de la baleine.
Voilà, vous avez du cachalot sur la figure.
On en a dans les corsets.
Partout.
On en avait, et maintenant, on en a sur la figure.
Mais oui, et pourquoi pas?
Écoute, c'est le siècle de la baleine, en fait.
Enfin, mettons qu'on en parle beaucoup.
Eh bien, grâce au docteur Soulaire, nous allons tous pouvoir vivre à la recherche de Moby Dick, d'abord grâce à son livre, et ensuite, et surtout, je crois, grâce au film des productions CSA, qui nous relatera par le détail toutes les aventures de toutes les baleines et les cachalots qui ont eu la chance de rencontrer le docteur Soulaire.
À la pêche à la baleine, disait le père d'une voix courroucée à son fils Prosper sous l'armoire allongée. À la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine, tu ne veux pas aller, et pourquoi donc?
Et pourquoi donc que j'irai pêcher une bête qui m'a rien fait propre? Voilà pépé, voilà pêcher toi-même puisque ça te plaît. J'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston.
Alors dans sa baleinière, le père tout seul s'en est allé sur la mer démontée. Et voilà le père sur la mer, voilà le fils à la maison, voilà la baleine en colère, et voilà le cousin Gaston qui renverse la soupière au bouillon.
La mer était mauvaise, mais la soupe était bonne, et voilà sur sa chaise Prosper qui se désole.
À la pêche, à la baleine, je ne suis pas allé.
Et pourquoi donc j'y ai pas été? Peut-être qu'on l'aurait attrapé, alors j'aurais pu en manger.
Mais voilà la porte qui s'ouvre et ruisselant d'eau.
Le père apparaît en haleine, tenant la baleine sur son dos.
Il jette l'animal sur la table, une belle baleine aux yeux bleus. Une bête comme on en voit peu, et dit d'une voix lamentable.
Dépêchez-vous de la dépêcher, j'ai faim, j'ai soif, je veux manger.
Il a faim, il a soif, il veut manger.
Mais voici Prosper qui se lève, regardant son père dans le blanc des yeux, dans le blanc des yeux bleus de son père, bleu comme ceux de la baleine aux yeux bleus.
Et pourquoi donc je dépêcherai une pauvre bête qui m'a rien fait? Tant pis, j'abandonne ma part.
Puis il jette le couteau par terre, mais la baleine s'en empare.
Et se précipitant sur le père, elle transperce le père en part.
Dit le cousin Gaston,
ça me rappelle la chasse aux papillons.
Et voilà
Prosper qui prépare les faire-part la mère qui prend le deuil de son pauvre mari.
Et la baleine, la larme à l'œil, contemplant le foyer détruit.
Soudain, elle s'écrie: et pourquoi donc que j'ai tué ce pauvre imbécile? Maintenant, les autres vont me pourchasser en mode que dire. Et puis, ils vont exterminer toute ma petite famille. Alors, éclatons d'un rire inquiétant.
Elle se dirige vers la porte et dit à la veuve en passant: madame, si quelqu'un vient me dire, montez, soyez aimable et répondez. La baleine est sortie, asseyez-vous, attendez-la.
Dans une quinzaine d'années,
bonjour, docteur Diamant-Berger.
Bonjour,
merci
Martine
d'être
Michelet.
Venu.
Ça fait plaisir de vous voir.
Oui, je préfère d'ailleurs que vous me parliez comme ça parce que nous nous connaissons depuis tantôt si longtemps, puisque c'était notre jeunesse, disons-le.
Oui, oui, enfin, n'insistez pas.
Oui, non, on n'insiste pas et on va tout de suite à notre divine maturité. Voilà. Voilà, je viens vous parler de vos manies. Non, mais je m'excuse, je sais à l'avance que vous en avez, d'ailleurs, comme beaucoup de vos collègues.
Oui.
Et je voudrais savoir quels sont vos violons dingres, variés et multiples.
J'en ai beaucoup.
Ah, premièrement.
J'en ai beaucoup. D'abord, la peinture, si vous voulez.
Tiens,
je me suis toujours amusé à barbouiller.
Et
vous savez que nous avons tous les ans un salon des médecins.
Oui.
J'y expose assez régulièrement. Et j'avoue que ça me cause un grand plaisir de me voir accroché à la cimaise de ce salon.
Qui, d'ailleurs, mais je comprends.
N'est pas.
Qu'est-ce que vous préférez, le portrait ou le paysage?
J'ai fait beaucoup de portraits, surtout quand j'étais en prison. Mais ça, il faut mieux pas en parler, c'était la guerre, d'ailleurs, naturellement.
Il y a un bon moment, je dois dire.
Vous avez fait
aussi de la littérature.
Oui, beaucoup.
À ce moment-là.
Oui. J'ai écrit mes souvenirs de prison, des poèmes écrits en prison, etc. C'est comme ça que je suis devenu le président de la société des écrivains médecins.
Ah,
oui.
Bon, ça alors c'est... Bonjour, monsieur le président, excusez-moi. Mais je voudrais savoir pourquoi vous écrivez des choses si gaies, alors que d'abord, ça n'était pas des choses très, très amusantes qui vous arrivaient, mais vous avez un moral tellement extraordinaire.
Parce que je suis gay de tempérament. Mes parents étaient gays, vous les avez connus, ils rigolaient tout le temps. Mais lorsque j'étais en prison, je cherchais à orienter, justement, ma pensée vers des sujets gays pour oublier un petit peu les horreurs du moment. C'est comme
alors
ça que
vous avez
écrit des choses très amusantes.
Dites-moi le titre de votre livre, parce que c'est vraiment étonnant.
Prison tragique, prison comique. Et l'éditeur a rajouté, à mon insu, prison grivoire.
C'est là où je voulais en venir. Très bien, passons. Alors, autre chose, du point de vue, de nouveau un peu, qui touche à votre métier, il y a une chose qui vous passionne, c'est le film dit chirurgical.
Le
alors là, je
chirurgical.
M'excuse, je suis profane, je voudrais savoir ce que c'est, moi.
Eh bien, le film chirurgical est très différent de la photographie d'une opération ou de ses reportages, comme on voit à la télévision. Le film chirurgical nécessite d'abord une idée directrice. Il faut avoir quelque chose à dire, c'est-à-dire une opération d'un cas rare, curieux, démonstratif, tout ce que vous voudrez. Il faut donc d'abord avoir filmé l'opération.
Bien sûr.
Ensuite, il faut monter le film avec des explications, des vues du malade avant ou après, la vue de l'organe que l'on a enlevé par exemple.
Mais tout ça sert uniquement aux
tout
gens.
Tout ça n'est pas destiné au grand public, c'est destiné aux étudiants et aux sociétés médicales et aux congrès nationaux, provinciaux, parisiens et congrès internationaux.
Mais alors techniquement, vous dites comme au cinéma, couper...
Techniquement, on cinématographie une opération, ce qui pose des problèmes extrêmement difficiles au point de vue éclairage, au point de vue temps d'arrêt. Il faut naturellement faciliter le travail du photographe, du cinéma.
Dites-moi, il n'y a pas de figurant, parce que moi, je ne vais pas m'engager
non,
là-dedans.
Non, il ne faut pas non plus que le malade en pâtisse. Il faut que l'opération soit faite correctement.
Et dites-moi, et alors, je l'espère.
Bien entendu.
Enfin, moi, je ne souhaite pas devenir un jour vedette d'un de vos films de festival très particulier.
Bon, qui
enfin, je suis contente de savoir ça. Mais alors, j'aimerais que vous me disiez aussi, quelquefois, les manies des médecins... frôle le danger. Je connais une certaine histoire que vous m'avez contée.
Oui, que je vous ai racontée un soir au cours d'un dîner. Ça vous avait beaucoup impressionné.
Où ça mène, tout ça?
Donc, c'était une histoire assez extraordinaire. Il y a des médecins, comme je vous disais, qui font du cinéma, il y a des médecins, peintres, littérateurs. Et j'ai vu à Madrid un médecin toréador.
Non, oui. Racontez-moi ça.
Ça se passait au congrès de Madrid, nous étions très nombreux. Les congressistes espagnols avaient bien fait les choses et nous avaient invités à Tolède. Nous avons eu la reine de Tolède pour nous, avec trois mises à mort, trois taureaux. Et je me trouvais à côté de la loge de la présidente du congrès, qui était la femme du doyen de la faculté de Madrid. Elle avait mis sur le devant de sa loge, comme toujours, un grand châle espagnol magnifique. Et je vois un médecin espagnol venir vers elle, se lui faire une grande courbette, un grand salut, lui demander, suivant les rites, l'autorisation de toréer pour elle. Elle lui a accordé. Il est descendu dans l'arène.
Les femmes sont très bonnes, vous savez.
Il est descendu dans l'arène, en veston, et il s'est mis à s'expliquer avec un taureau. Mais le taureau voyait probablement qu'il avait affaire à un amateur. Il n'a pas été long à le renverser et à le piétiner. Heureusement, il n'y a pas été de la corne. Et alors, les toréadors professionnels sont arrivés tout de suite, ont attiré le taureau avec leur sorte de muleta, les étoffes rouges, vous savez.
Bien sûr.
Et ce brave garçon s'est relevé, on s'est précipité. Il n'a pas voulu se laisser aider. Il est venu vers la dame à qui il avait demandé l'autorisation de torer. Il s'est incliné et lui a dit simplement, « Madame, c'est le plus beau jour de ma vie.
» Mon Dieu, espérons qu'il en aura d'autres.
En loc.
Meu bom amigo valente, tens o homem pela frente. É toiro, é toiro, toiro lindo, venha de lá esse abraço. Vou pular-te no cachaço, ou tu vens cá, ou eu vou lá. Não há cavalos nem varas, não há farpas, capa ou espada. Faz-te uma pega de caras, com corpo e alma e mais nada. Dos bravos que em toda a parte lhe dão toiros numa praça, os outros terão mais arte, o forcado tem mais raça. Toiro é toiro, meu bom amigo valente, tens o homem pela frente. É toiro, é toiro, toiro lindo, venha de lá esse abraço. Vou pular-te no cachaço, ou tu vens cá, ou eu vou lá. Esse abraço, vou pular-te no cachaço, ou tu vens cá, ou eu vou lá.
Bonjour Henri Dutilleux et merci surtout d'être venu jusqu'à moi aujourd'hui. Vous êtes le bienvenu, comme le dit si bien le titre de l'émission. Mais j'ai des raisons pour lesquelles vous êtes tellement le bienvenu, c'est que on ne vous connaît que sous le côté, comment dirais-je, officiel. De votre sérieux apparent, je dis bien apparent parce que moi je vous connais bien et depuis très longtemps. Alors j'aimerais savoir et dévoiler un peu à votre public ce qu'est un musicien sérieux, mais dans la vie de tous les jours, vous voyez ce que je veux dire, ses amitiés, ses relations dans le métier et hors du métier, enfin du vôtre. Alors, il faut bien dire, les musiciens dits sérieux dont vous faites partie vivent un peu en vase clos. J'aimerais que vous me l'expliquiez vous-même.
Mais il faudrait peut-être alors commencer par... expliquer comment nous nous sommes rencontrés.
Ah, j'aimerais, c'est d'ailleurs, oui, j'aimerais.
C'est un petit peu ce qui a déterminé ce changement et cette, en ce qui me concerne, cette évolution. Voilà, je me souviens qu'un jour, par un coup de téléphone, Yvonne Gouvernet m'a annoncé la visite.
Oui, j'aimerais que vous insistiez. Yvonne Gouvernet, qui comment est chef des chœurs à la radiodiffusion française.
Donc, grande moi, musicienne, c'est très bon, vous Yvonne Gouvernet.
Parce qu'on doute très souvent que je sois chanteuse. Oui. Je le fus, vous êtes témoin, n'est-ce pas? Vous êtes témoin.
Continuez. Et dans quelles circonstances? Alors vous êtes venu me voir.
Et vous êtes responsable.
Dans un studio très impressionnant de la radio. Et alors je me préparais à vous accompagner. Oui. Et je vous ai tout de suite dit, mais vous devez chanter Carmen sans vous avoir
absolument
entendu.
Absolument, et vous aviez peur pour vos vitres, vous m'avez dit ça après.
Et puis alors, brusquement, j'entends une voix de petit garçon, de petit chanteur à la croix de bas, exactement.
Osons le mot. Un envoyé de Monseigneur Maillet.
Alors, nous sommes beaucoup amusés de cet incident. Oui. Et puis, enfin, c'était le début de beaucoup
Oui, mais malheureusement, jour-là, seulement vous avez découvert mes deux voix, n'est-ce pas, mais aussi mon rire.
Et alors
là, est né, de ce rire est née une amitié, mais dirais-je avec un certain barrage. C'est-à-dire que vous refusez obstinément d'aller dans un cinéma voir un film comique avec
moi. Nous avons vu pas mal de films comiques ensemble.
Pas comiques.
Je me souviens de ces...
On en a vu un et depuis vous avez trouvé des excuses valables, enfin, pour ne plus vous trouver à côté de moi dans une salle de spectacle
oui,
comique.
Oui, je sais très bien ce que vous voulez dire. Ouais. Non, mais parce que votre rire est évidemment sentant et
percutant,
on le remarque,
comme on dit en musique.
Et à ce moment-là, je trouvais très extraordinaire qu'on puisse rire de cette manière-là. Et alors, je ne le cachais pas, ce qui était extraordinaire.
Ah non, vous me disiez, vous aviez honte. Voilà. Osons le mot, Henri, vous aviez honte. Enfin, ça ne fait rien.
J'avais honte et je ne l'ai plus.
Non, bon, nous en reparlerons. Seulement, évidemment, enfin, vous êtes vengé, n'est-ce pas?
Ah.
Vous êtes en une curieuse façon parce que vous m'avez dévoilé ce jour-là que, étant musicien et absolument obligé de vivre dans votre monde à vous, qui est extrêmement sérieux et pas toujours drôle, il faut bien le dire, pour vous, j'entends.
Oui.
Vous n'aurez pas beaucoup de distractions parce que vous travaillez beaucoup, mais il y a une chose que vous aimez, ce sont les spectacles gays, par contre.
Les westerns, nous avons nous-mêmes vu un certain nombre de spectacles.
Ah, je pense bien,
cinéma,
non, mais je vous reproche pas.
Et puis enfin, j'ai vu les vôtres, je suis venu voir les vôtres.
Vous avez ri à Branquignol, je me rappelle, presque aussi fort que moi. Et vous aimez les comédiens énormément, parce que vous les avez rencontrés au conservatoire,
alors,
il y a de ça...
Non, mais alors justement...
Hier,
oh, ça remonte déjà à quelques années. Je me souviens très bien quand j'étais élève au conservatoire, c'est juste avant la guerre, il m'arrivait de rencontrer un grand comédien, un grand personnage, c'était Louis Jouvet. Et alors j'avais très envie de parler avec Louis Jouvet, mais nous n'avions pas de contact, nous musiciens, n'est-ce pas ? Nous étions un petit peu dans notre sphère, et puis enfin moi j'étais un tout à fait élève.
Oui, mais là vous avez rencontré des élèves de Jouvet.
Et alors il se trouve que j'ai rencontré de temps en temps à la cantine, je rencontrais Jean Meyer par exemple, Bernard Blier, je crois bien François Perrier,
et puis
je regrette bien maintenant de ne pas les avoir connus davantage, parce que, et d'ailleurs quand je les vois, ils m'ont toujours beaucoup de sympathie, n'est-ce pas? Et c'est d'ailleurs ce que je trouve très touchant chez vous, comédien, enfin genre de théâtre, c'est que vous considérez vraiment les musiciens et les compositeurs et les solistes, les virtuoses, comme des camarades, tout à
mais
fait.
Absolument.
Il y a une sorte de solidarité qui se
mais
crée.
Mais on s'en vante.
Vous êtes
même,
un petit peu comme des alliés. Alors, d'ailleurs, vous ne manquez jamais de m'annoncer quand quelque chose se produit pour vous, quand une première se produit. Alors, j'y fais, j'y assiste, et puis enfin, je suis ravi et je suis ça avec beaucoup d'attention.
Oui, mais dites-moi, tout ce sérieux vous mène dans un pays qui vous tente pour beaucoup de raisons, je crois. Si vous m'avouiez, par exemple.
Oui, vous voulez, hein, oui.
Vos pensées secrètes.
Je vois très bien à quoi vous pensez.
Parce
que vous imaginez que je souhaite me trouver avec des artistes.
Par exemple.
Qui me commanderaient également un ballet, comme
Marilyn
Monroe, tout simplement.
Vraiment, vous avez dit un nom absolument au hasard.
Oui, bien sûr.
Écoutez, Henri, je vous le souhaite, seulement pour nous,
non,
vous nous excuserez. Nous préférons que vous recommenciez à faire de la musique, enfin, sérieuse. Et surtout, j'aimerais que vous refassiez un ballet aussi beau, si c'est possible, que Le Loup. Bonjour Ginette Spanier, et vraiment, je ne peux vous dire ma gratitude d'avoir quitté si vite la maison Balmain entre deux collections, entre deux visites, entre deux clientes importantes. pour venir bavarder de tout et de rien avec moi et de vos goûts dans la vie, en dehors du goût que vous avez, bien sûr, de la mode féminine. Et j'aime autant vous dire que Henri Dutilleux, qui était là tout à l'heure, serait bien navré de penser qu'il vous a croisé en venant, sans savoir que vous côtoyez tous les jours peut-être les plus jolies filles de Paris et les plus grandes stars. Alors j'aimerais que vous m'expliquiez, vous qui êtes directrice d'une des plus grandes maisons de couture de Paris, ce que représente exactement un mannequin à l'état libre, j'entends, c'est-à-dire au moment où elle travaille et quand elle n'est pas tellement en représentation. Je veux parler de la cabine, la fameuse cabine des mannequins, qui est un mystère pour tout le monde. Et je connais des hommes qui vont commencer à tendre l'oreille. Alors je vous laisse la parole.
Mais d'abord, il faut que je m'excuse parce que, à cause de mon petit accent anglais, je ne suis pas Marie Chantal, je suis anglaise. Je suis d'ailleurs la seule directrice d'une grande maison couture française qui soit anglaise, et je suis très fière de cette.
Oui, il y a longtemps qu'on vous a pardonné tout ça. On a oublié, vous êtes mieux que français, vous êtes parisienne. Vous pensez qu'est-ce qu'on peut faire?
Oui, mais il y a mon accent qui est tellement bête.
Justement, il y en a qui voudraient bien l'apprendre. D'ailleurs, moi, vous me connaissez. Toujours à la fin du progrès, je commence déjà à prendre des leçons. Alors, parlez-moi de la cabine des mannequins, les dessous, si j'ose dire, de ces demoiselles.
Eh bien, tout le monde imagine naturellement que les mannequins d'aujourd'hui sont les girls de Maxim's de 1900, n'est-ce pas? Qu'elles arrivent comme ça dans un landau avec un parasol couvert de bijoux, oui, et beaucoup de messieurs qui sont dehors à les attendre, à les amener. Eh bien, je crois vraiment que dans une maison de couture, les mannequins sont parmi les créatures qui travaillent le plus. Et Dieu sait que nous travaillons tous beaucoup dans une maison de couture. Vraiment, terriblement. Et elles, est-ce que vous vous imaginez ce que c'est qu'une collection? Il y a 150 robes qui passent en moins d'une heure et demie. Les mannequins à succès ont entre 20 et 22 robes, c'est-à-dire elles n'ont pas une minute pour se changer complètement avec des gants.
Sans parler de la période d'essayage, qui est la pire.
Ce qui est complètement ridicule, parce que n'oubliez pas que nous faisons la collection d'été en janvier, où on grelotte, et quand tout le monde part à Saint-Tropez, nous sommes couverts de fourrure et de tweed, et que ces pauvres filles sont là debout pendant 8 à 10 heures par jour. Ce sont les mannequins.
Entendons-nous bien, ces ravissantes créatures que ces messieurs voient sur les catalogues, ils doivent non seulement les admirer, mais aussi les admirer pour leur courage.
Et leur santé.
Et leur santé, dire, car
leur
il
santé,
faut le dire.
Parce qu'il faut qu'elles aient une santé du tonnerre.
Mais alors, du point de vue humain, est-ce qu'elles sont gentilles?
Je les adore.
Vous les adorez.
Oui. Dans une maison de couture, il y a beaucoup de gens qui sont assez intéressés. Il y a des gens qui vendent, il y a des gens qui... Elles ne sont pas intéressées du tout, elles ne sont pas toujours brillantes, mais elles sont
très
adorables.
Très enfants.
Et elles sont très affectueuses, elles sont choues. D'abord, elles sont ravissantes, c'est toujours gentil, je trouve.
Je pense bien. C'est agréable de travailler dans une ambiance avec des...
Très. Et elles sont très gentilles. Quelquefois, elles sont impossibles, elles me font des excuses ridicules.
Par exemple,
il faut qu'elles passent deux fois une robe, n'est-ce pas? Oui. Parce que tout de même, de passer la collection, c'est pour la vendre.
Bien sûr.
Et alors, quand elles ne montrent qu'une fois, je dis, mais qu'est-ce que tu as? Oh, j'ai mal aux pieds.
La poésie du mannequin est très.
Mais les autres robes, tu les as passées deux fois. Oui. Ou une autre fois, j'ai quelque chose dans l'œil. Je dis, bien, tu n'as pas besoin d'ouvrir les yeux. Ferme les yeux, mais monte ta robe. Elles sont vraiment très, très choues.
Enfin, ce sont des martyrs très élégants et ravissants et qui cachent bien leur jeu.
On ne se rend pas compte qu'un mannequin s'identifie beaucoup à la robe qu'elle montre.
Ah oui, elles y croient.
Ah, tu crois complètement.
Ah oui, c'est très important.
D'abord,
ça.
Ce qu'elles veulent, c'est montrer des fourrures, parce que surtout du vison.
Ah, bah,
il faut
pensez.
Dire
ce
que la vérité,
le vison, c'est la femme.
Le vison, c'est une passion sexuelle au fond, n'est-ce pas?
Ah oui, je crois.
Tout le monde veut avoir du vison. Pourquoi est-ce que le vison?
Non, moi je n'en veux pas. Ça,
moi,
j'ai déjà dit.
On m'en a
offert des tonnes et je n'en veux plus. Aujourd'hui, ne m'envoyez plus de vison.
Vous me les passez parce que moi, je rêve de vison. J'ai d'ailleurs intitulé un livre que je viens de finir, et il y a « Vison » dans le titre, parce que moi,
alors,
c'est très important.
C'est quoi ce livre? C'est sur la couture?
Mon autobiographie. Non, ça commence très sérieusement, il y a une guerre horrible, et puis après ça, il y a la couture.
Dites-moi, Ginette, mais à part la beauté féminine et la mode, je sais que vous avez une passion, mais alors dévorante, c'est le théâtre et les gens de théâtre.
Ah, moi, ils m'éblouissent. Vous m'éblouissez.
Ah oui, bien sûr.
Je trouve que vous êtes une artiste exquise et ravissante.
Absolument.
Et si vous venez à la maison, je suis très très fière, ainsi que
d'autres. Ça fait plaisir à Marlène Dietrich quand je viens.
Elle adore ça. Elle adore ça parce que vous lui chantez des chansons et elle adore ça.
Oui, bon, mais vous savez, c'est une petite qui est très gentille et qui est restée très simple et très enfant. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de la voir heureuse pour un rien. Mais alors, dites-moi, j'ai vraiment rencontré chez vous le tout Paris, le tout Londres, le tout New York et le tout Hollywood. J'aimerais que vous me disiez, comme un palmarès, les gens qui non seulement viennent prendre un verre chez vous, parce qu'il n'y a que vous pour recevoir comme ça à Paris, mais en plus, ceux qui habitent chez vous.
Moi, je ne donne jamais rien à manger.
Ah bon, mais ça ne fait rien, nous dévorons des yeux ce que vous nous offrez dans les
salons. Il y a à boire tout de même, il faut dire que
c'est à boire. Oui, ça c'est ce qu'il y a de plus dangereux, c'est autre chose. Mais par exemple, j'aimerais que vous me disiez, ceux qui vraiment sont lassés de l'hôtel et ont décidé une bonne fois pour toutes d'habiter chez vous, comme
malgré
ça,
que je sois une très mauvaise maîtresse de maison, mais ils disent qu'ils sont confortables et qu'ils peuvent crier.
Alors dites-moi par exemple qui habite chez
vous. Eh bien Noel Coward, que j'adore, vient toujours habiter chez nous. Il dit dans un discomfort, un manque de confort absolu d'ailleurs. Marlène, comme un ange, vient habiter chez moi.
Oh, mais elle, c'est la petite fée de la maison.
Mais ce qui est merveilleux, alors comme ça, elle fait le ménage et elle range ma cuisine. Et avec ma Lucie, ma merveilleuse femme de chambre, ils organisent ma maison et tout ça, c'est merveilleux.
Sauf qu'on devrait louer Marlène en extra à certains amis que j'imagine déjà.
Moi je la garde.
Écoutez Ginette, je vous propose quelque chose. Laissez-moi la liste de vos invités de marque et je les placerai chez mes meilleurs amis à moi.
Il y a Laurence Olivier pour qui j'ai un
alors je me le garde, vous permettez.
Vivienne Lee, charmant.
Et Dani Kay, je sais.
Ah oui.
Oh, ça y est, elle est partie dans son rêve. Alors à bientôt. Bonjour Pierre Tchernia. Ça vous surprend parce que d'habitude c'est vous qui me dites bonjour en premier, d'abord parce que vous êtes gracieux et ensuite c'est moi qui vais vous rendre visite dans vos propres émissions. C'est une image. Mais aujourd'hui c'est moi qui vous accueille. Voyez-vous, les rôles sont changés. Et vous savez de quoi je veux que vous me parliez ?
Non.
De vos manies.
De mes manies ?
Et Dieu sait s'il y en a. Oh là enfin, là. Les avouables, j'entends. Alors je voudrais que vous me racontiez ce que vous aimez en dehors de votre métier.
Oh, ben, mes collections, quoi.
Voilà, exactement.
Mais ben, je collectionne les enfants, déjà.
Ça n'est pas bête, surtout quand ils sont comme les vôtres.
C'est pas énorme, enfin, il y en a quelques-uns. Je collectionne les jouets aussi.
Pour les enfants ou pour vous ?
Non, pour moi.
Ah, ben, bien sûr.
C'est-à-dire qu'à la maison, il y a les jouets pour les enfants. Alors, ils sont
c'est
cassés.
C'est écrit dessus ?
Non, mais ils sont cassés, ceux-là, on le voit tout de suite. Parce que, vous savez, quand on donne un joli jouet mécanique ou électrique à un enfant, dans l'heure qui suit, paf, c'est fini.
Mais
paf,
c'est fait
il
pour.
Est cassé, oui. Et alors, il y a ceux qui ne sont pas cassés, c'est ceux de papa et des enfants. C'est-à-dire que je les montre à mes enfants, je les fais marcher sous leurs yeux, mais ils y touchent.
Et c'est confisqué aussitôt.
Oui, c'est ça, c'est dans une vitrine, quoi.
Ah, je vois ça d'ici.
Et puis, alors, qu'est-ce que j'ai comme autre collection ? J'ai des collections de mots d'enfants. Enfin, j'avais une collection de mots d'enfants.
Mais je vous l'ai prise.
Oui, c'est ça. Je vous l'ai bêtement confiée un jour, et puis j'entends maintenant que me reviennent aux oreilles des mots d'enfants dont on me dit « Oh, est-ce que tu connais ce mot d'enfant ravissant ?» C'est le petit Robert, 4 ans, qui dit à la petite Nini...
Ça, c'est pas vrai, car je cite les auteurs.
Mais oui, mais...
Et je dis « Ce sont les enfants de Monsieur Tchernia. »
Mais je veux bien, Micheline, mais l'opinion publique fait que tout ça se perd, vous comprenez ?
Ah,
ça
oui,
passe
c'est
dans
ça,
la
drame.
Bouche d'un Birot ou d'un Bouvet.
N'importe qui, évidemment.
Et hop,
évidemment,
ça s'écroule.
Ça, c'est le danger. Mais alors, dites-moi vos petites manies, alors presque secrètes. Je sais que vous collectionnez des vieux papiers, tout ça. Enfin, ça
oui,
fait un peu désordre, mais ça
oui,
peut être
charmant. Oui, mais enfin, il y a des tas de gens qui font ça. Je collectionne des vieux papiers, des vieux catalogues, des vieux almanachs, des vieux journaux.
Oui. Exemple.
Eh bien, tenez,
je brûle
comme
de
je sais que c'est ça que vous alliez me demander, je vous en ai amené un. Je vous ai amené l'almanach Hachette de 1897.
Ah, quand même.
Alors, les petites observations de la nature se présentent sous la forme d'un petit tableau inclus dans cet almanach, et à côté d'un certain nombre de choses chose que je vais vous lire, il y a une ligne de tiret afin de pouvoir mettre une date. Car en fait, cela permettait aux lecteurs de l'almanach de noter au cours de l'année les choses qu'ils avaient pu remarquer dans leur propre jardin. Et regardez comme ces gens-là avaient des observations intéressantes. Le premier chant du merle, trouver la première violette, l'arrivée des cigognes, le premier dîner sans lampe, la première sortie en chapeau de paille, entendu le coucou pour la première fois, les cerisiers en fleurs, les poiriers en fleurs, puis vous voyez, on arrive au milieu de l'année, le premier bain froid, les cerises mûres, l'avoine mûre, les premières poires.
À ne pas confondre.
C'est déjà l'automne, les premières poires. Le dernier dîner sans lampe, les premières pommes, le départ des hirondelles, faucher la dernière herbe au jardin, allumer le premier feu, la première gelée blanche, la dernière rose au jardin, première neige. Et ça recommence l'année suivante, le premier chant du merle, trouver la première.
Moi, je ne vous savais pas si sentimental.
Mais moi, je trouve merveilleux que les gens de 1897 aient pu passer des années à s'occuper de ces choses-là.
Je pense bien, parce que vous avez fait votre propre almanach, ça n'a rien à voir.
Mais oui, mais supposez que maintenant, on fasse ça, on ferait petites observations de la vie quotidienne, reçu le premier avertissement taxé, le 12 février, mis de l'antigel dans ma voiture, le 14 octobre, ce
serait entendu bureau à la radio.
Entendu bureau.
Ça, dans les événements néfastes.
Oui, ça, je ne marquerai jamais rien, parce que je ne sais pas qui c'est, bureau.
Oh, bah, vous avez bien de la chance. Enfin, c'est une autre histoire. Écoutez, Pierre Turner, je vous remercie mille fois, vraiment, d'avoir dépouillé pour moi ces souvenirs en forme de bouquet.
Vous
savez, de l'avoir laissé défeuillé devant moi.
Vous savez que vous êtes épatante. Vous devriez faire des émissions sentimentales à la radio.
Et puis, je compte sur vous.
Vous présenteriez des disques.
Et si on faisait ça ensemble?
Ah, vous, ça serait épatant.
C'est presque trop, non?
Oui, vous savez, on ferait des présentations de disques, comme on fait à la radio, on dirait, eh bien, c'est déjà le mois de septembre, et nous sommes loin du Portugal, et voici pourtant avril en Portugal.
Ah, c'était pas...
Ça, c'est comme ça qu'on fait à la radio.
Ah, c'est vrai?
Ah oui, c'est bien.
Et écoutez, dès maintenant, je me mets à l'écoute, et je vais noter tout ça sur mon petit almanach personnel.
Dites-moi, il n'y a pas moyen de passer un disque? Non, je dis ça parce que je pense que ça pourrait vous arranger pour votre émission.
Oui, ça m'arrange beaucoup, je vous remercie, j'y avais pensé.
Qu'est-ce qu'il faudrait que je demande?
Eh bien, je voudrais, pour vous, mon vieux phono.
Bourville. Bon. Dites-moi, chère Micheline, avant de vous quitter... Est-ce que je peux exprimer un souhait, un modeste souhait dans ce studio de la radio?
Oh, mais vous êtes là pour
J'aimerais
ça.
Tant entendre un disque.
Oh,
est-ce
mais
que je
lequel?
Pourrais réclamer?
Mais je,
oh, je ne sais pas, attendez. Par exemple, Mon vieux phono, par Bourville.
Mon Dieu, où va-t-il chercher tout ça? Eh bien, écoutez, c'est comme si vous l'aviez.
Mon bon vieux grand-père qui était comédien quand j'étais gamin chantait ce refrain tout en remontant avec précaution la petite manivelle d'un vieux phono à pavillon. Sur mon phono, mon bon vieux phono, petit tu vois, quand j'ai le cœur gros je mets un rouleau et je revois Paulus, Mayol, les rois du music-hall, Dranum, Narquois, qui chantaient les petits pois sur mon phono, mon bon vieux phono, sans me déranger. Je peux écouter le premier numéro de Chevalier. Je vois la Scala, l'Eldorado, et moi enlevé de rideau sur mon phono, mon bon vieux phono, qui chante faux.
Maurice Birot.
Oui, attendez.
Vous n'êtes pas étonné d'être là?
Si, justement, je voulais vous entretenir de ça.
Oui.
J'ai appris que vous faisiez cette émission où vous receviez tous vos amis. C'est
oui,
ça?
Mes amis, oui.
Bon.
Mes amis, oui.
Alors, je ne vois pas du tout ce que je fais ici.
Oui, évidemment, il y a pas le rapport.
Non,
vue,
ça.
Évidemment.
Je pense que c'est un accident.
Non,
ou,
pas du tout. C'est volontaire.
Ou un coup de téléphone par erreur.
Non, pas du tout.
Parce que je tiens à vous fixer tout de suite, Micheline Dax, et je suis très heureux d'être devant ce micro pour l'affirmer. J'ai horreur de ce que vous faites.
Oh, mais vous me soulagez, alors.
Je
vraiment.
Vous le dis très franchement.
Non, car des mauvaises langues, regardez comme le monde est méchant,
oui.
M'avez dit que vous m'aimiez bien, enfin que vous appréciez mais non, mais... certaines faces de mon talent
multiple.
Oh,
mais pas du tout.
Je suis ravie parce que vous savez que je vous déteste. Alors évidemment, alors, ça arrange bien des choses.
Moi, je veux pas jusqu'à vous détester, mais enfin.
Non, je déteste ce que vous faites.
Ah oui, d'accord.
Ah
oui,
non,
oui,
l'homme,
oui.
Je ne le connais pas, il ne veut pas le connaître.
C'est ça.
Je parle de l'artiste, si j'ose employer un mot aussi dangereux. Oui. Quand il s'agit de vous, ça n'a rien à voir, bien entendu. Enfin,
mêlez-vous donc de ce qui vous regarde.
Oui. Malgré tout, et ça, j'en suis désolée.
Oui.
Malgré cette espèce de différent qui
Micheline,
nous oppose,
abrégé, parce que
j'abrège. Il y a une chose qu'il faut avouer, nous avons une passion commune. Ah non, je suis désolée de vous le dire,
quoi?
Maurice, mais c'est vrai,
quoi?
Nous aimons les chats.
Ah, c'est vrai, ça. C'est vrai.
Il faut reconnaître. Et alors, il y a une autre chose qui nous lie beaucoup, c'est qu'à propos des chats, nous parlons chats, vous et moi, couramment, et je crois que nous sommes peut-être les seuls à Paris. Enfin, en tout cas.
Tout au moins, je sais qu'il y en a qui essaient, mais c'est très mauvais, il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est-à-dire que les chats ne bronchent pas.
Absolument. Moi, ma chatte me disait l'autre jour, j'ai entendu un malheureux.
Ridicule.
Je sais que la vôtre a la même opinion.
Oui, absolument.
Alors, voilà ce que je vous propose, Maurice. Pour une fois, déposons les armes.
Oui.
Et je voudrais que nous adressions, tous les deux, un message personnel à nos chattes respectives. Sont à l'écoute.
Eh bien, commencez si vous voulez.
Eh bien, écoutez, non, je vous en prie.
Oh, bon,
faites comme chez vous, c'est vous que je reçois.
Attendez, je crois que la mienne est tout de même plus près d'ici.
Ah bon?
Alors, je vais m'approcher du micro pour parler plus fort pour qu'elle m'entende mieux.
Je vous en prie.
N'est-ce pas?
Je vous en prie.
Alors, je peux parler?
Oui, et vous dites son nom, pour que tout de même
On
sache que c'est vrai.
C'est-à-dire qu'elle en a plusieurs.
Ah bon, ça, c'est, mais l'officiel.
C'est Rounette, c'est... Et puis là, on en a trouvé un amusant, c'est Mimi.
Ah oui, c'est original.
je ne pense pas que ça ait été fait.
Non,
déjà.
Je ne crois pas non plus.
Alors, je m'adresse à Rounette, j'ai fait... Rounette, c'est si petit pouillet, à la fin que la grosse griffe et la pouit. Voilà, alors à vous maintenant.
Et écoutez, alors moi je ne vais pas hésiter, n'est-ce pas, je pense que...
Attends, une rectification.
Oui.
Os. Parce que
c'est subtil.
C'est pas tous les jours.
Oui. Mais la mienne est beaucoup plus subtile que la vôtre encore, je m'excuse.
Oui,
alors vraiment, moi c'est le langage intime, n'est-ce pas. Alors je m'excuserai, je vous demande une petite seconde.
Mais je vous en prie, je peux me retourner.
Oui. Voilà, et j'en pense beaucoup plus.
Écoutez,
Maurice, je vous remercie au nom de nos deux petites chattes.
Je me demande si c'est vous. Je pense que les auditeurs vont être ravis, non?
Absolument ravis.
Je pense que ça a énormément d'intérêt.
Absolument.
Ah, oui, non, parce que
tout ce que nous faisons.
Sinon, il valait mieux pas le faire, quoi.
Eh bien, écoutez, j'espère que nous pourrons en reparler un jour.
Mais bien entendu.
Autre part, enfin, où nous pourrons nous dire d'autres vérités.
Entendu. Un mot encore, toutefois.
Oui, vous avez droit encore à...
J'ai croisé Tchernia tout à l'heure.
Ah oui, Tchernia, mon ami.
Ah oui, lui, c'est votre ami, c'est ça. Je l'ai croisé dans le couloir, il m'a à peine salué d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est parce qu'il venait d'ici.
c'est ça.
Et là, vous lui avez certainement parlé de moi.
Non, j'ai rien dit.
Non, cela dit, je sais qu'après chaque visiteur, vous faites passer un disque.
D'habitude,
vous demandez. Oui. Alors moi, je ne vous demande rien du tout.
Ah, vous avez raison.
Moi, j'impose mon disque.
Ah bon.
J'impose mon disque.
Bon.
Et ça sera, si vous le voulez bien... Le petit chien dans la vitrine.
Eh bien, écoutez...
Bon, et ne me demandez pas pourquoi, s'il vous plaît.
Non, je ne demande rien.
Et alors, j'ai une autre exigence, je le veux par Lynn Renaud.
Ah bon?
Comprenez-vous?
Ça sera tout.
Parce que Lynn Renaud, j'aime bien, c'est une chanteuse qui a du fond.
Bon.
Alors, et puis, il n'y a pas à discuter.
Mais je discute pas.
D'accord. Hein. Vous m'excuserez de ne pas vous dire au revoir.
Je vous en prie.
Je vous en prie.
Combien pour ce chien dans la vitrine? Ce joli petit chien jaune et blanc. Combien pour ce chien dans la vitrine qui penche la tête en frétillant? Je dois m'en aller en Italie en laissant tout seul mon mari. Un chien lui tiendrait bien compagnie en étant toujours avec lui. Combien pour ce chien dans la vitrine? Ce joli petit chien jaune et blanc. Combien pour ce chien dans la vitrine qui me regarde en frétillant? Je viens de lire que dans les nouvelles il y a des voleurs de cœur. Si de mon mari le cœur chancelle, il protégera mon bonheur. Je n'ai pas besoin de souris blanche, ni même d'un perroquet savant. Quant au poisson rouge, même un dimanche, il aurait l'air bête en les promenant. Combien pour ce chien dans la vitrine? Ce joli petit chien jaune et blanc. Combien pour ce chien dans la vitrine? Eh bien, c'est d'accord, je le prends. Thank you.
Yves Ciampi, je vous accueille d'autant plus volontiers que vous représentez un cas pour moi. Vous êtes le cas tout à fait à part de cette journée où j'ai eu la joie de recevoir mes amis. Parce que vous avez aimé un autre métier que le vôtre, puisque vous étiez médecin.
Oui, enfin, j'ai fait toutes mes études de médecine.
Exactement.
Je suis votre cas clinique, en quelque sorte.
Exactement. Et vous avez tout d'un coup une passion pour le cinéma. Et cette passion pour le cinéma vous a mené tout droit à la réussite de votre vie totale. J'entends non seulement du point de vue professionnel, mais du point de vue humain. Et j'aimerais que vous me disiez que vraiment, vous, vous pouvez vous vanter d'avoir vécu un conte de fées. C'est tout de même très rare à notre époque pleine de progrès, mais enfin qui a oublié qu'il y avait des choses merveilleuses qui pouvaient exister. Et j'aimerais vous entendre dire, par exemple, ça commencerait par « Il était une fois un jeune metteur en scène qui a eu la chance d'aller faire un film dans un pays de rêve, et c'est là où je vous attends. »
Eh bien, il était une fois, oui, ça fait 4 ans d'ailleurs, un jeune metteur en scène, je retiens d'ailleurs le mot « jeune ». Bah oui, j'avais 34 ans exactement.
Et mais il est toujours valable.
Il est toujours jeune.
Ah.
Bien qu'en ce moment, on a tendance à nous vieillir.
Je ne trouve pas, vous savez, moi je ne me rends pas compte.
Eh bien, je suis parti au Japon. Je suis parti au Japon brutalement, en effet, plus célibataire que jamais. D'abord, je l'avoue humblement, à mon arrivée au Japon, je confondais tout le monde. Je les trouvais tous pareils et
oui,
toutes pareilles. J'aurais d'ailleurs poliment posé la question sur nous, parce que nous nous ressemblions tous. Ils m'ont dit oui, vous aussi, c'est très difficile de vous reconnaître. Alors j'ai vu 50 films japonais sans sous-titres. C'était à Téhéran, et ces gens sont tellement polis que moi-même, atteint de la politesse, je n'osais pas arrêter, comme on fait souvent ici,
oui,
les films en cours de route en disant « ça va aller, autre chose ». Non, non, j'en ai vu 50, environ.
Et vous avez vu quelques
Et j'ai vu enfin un film avec elle, je ne sais plus le combienième c'était, j'ai dit « ah, voilà exactement la femme que je veux pour le film ».
Pour le film, simplement.
Je ne pensais pas du tout à autre chose. Et là-dessus, les Japonais ont eu un fin sourire et m'ont dit « Ah oui, évidemment, c'est la plus grande vedette du pays, ça, vous ne pouviez pas mieux
ça,
tomber. »
Ça, c'est l'instinct, comprenez.
J'ai dit bah, «
l'instinct
j'étais très
du metteur
fier,
en scène. »
J'étais très fier.
Oui.
J'ai dit « Comment elle s'appelle ?» On m'a dit « Kishikeiko ». J'ai dit « Bon, moi, ça ne me dit rien. Est-ce que je peux la voir demain ?» On m'a dit « Ah non, non, non. Non, non, elle est sous contrat avec David Lean. Elle doit faire un film. Elle apprend l'anglais en ce moment à Londres. » Ah, j'ai dit « Eh bien, écoutez, c'est bien dommage. Mais moi, il faut que je trouve quelqu'un d'autre. » Et je n'ai pas trouvé, au fond, quelqu'un d'autre. Je n'avais jamais oublié cette projection. Et un jour, un producteur, ami japonais, m'a dit « J'ai des petites nouvelles à vous donner. » Toujours le petit côté un peu secret, chuchoté.
Ah,
« Je crois que le film de David Lean ne va pas bien. » Et en effet, il allait même tellement mal. C'était en fait la maladie de Sir Alexander Korda, qui est mort en décembre,
bien
à peu
sûr.
Près. Le film est tombé à l'eau, et David Lean a signé un autre film avec Sam Spiegel, et je crois qu'il a eu raison, puisqu'il s'agissait du pont sur la rivière Kwai.
Oui, ça n'est pas bête, vous voyez.
Oui, et à ce moment-là, j'en ai déduit, fort brillamment, tellement bon policier, que ma femme, excusez-moi, je ne la connaissais pas, que cette actrice devait être libre. J'ai câblé à Paris, où était mon producteur, qui a câblé à Londres, et on a fait venir cette pauvre actrice qui apprenait l'anglais depuis 3 mois à Paris, et on lui a fait signer
et
un contrat,
pas le français,
et elle
bien
s'est
entendu,
mise du coup à apprendre le français à Paris. Mais ça a été catastrophique. Cette pauvre fille ne s'habituait pas du tout, elle ne connaissait personne, elle vivait bizarrement isolée à Paris, comprenant rien à la vie trépidante. On l'amenait à la télévision, on l'amenait à ceci, à cela, on lui posait des rendez-vous, elle n'avait pas le temps. Elle n'avait pas le temps d'arriver, que c'était déjà fini, on l'oubliait. Et un beau jour, on me l'a renvoyée au Japon, et finalement, c'est moi-même qui l'ai accueillie à l'aérodrome de Tokyo, alors qu'on me l'envoyait de Paris.
Alors ?
Eh bien, alors rien. Je n'ai pas fait grande attention, j'étais en plein dans mon film. Et je l'ai considérée comme une charmante actrice, 100 points, c'est tout. Je l'ai très peu vue, une fois ou deux, nous avons choisi des tissus, des robes peut-être. Et le tournage a commencé. Et le premier contact a été bizarre parce qu'elle a commencé à inviter petit à petit les gens de l'équipe pour aider de son côté à mettre du liant.
Bien
elle
sûr.
A invité les opérateurs un jour, je me souviens. Puis certains techniciens français. Et puis Daniel Darieux et son mari. Et puis finalement tout le monde,
sauf
moi.
Oh.
Et ça se passait dans son hôtel japonais où elle faisait chaque fois un très bon dîner avec des geishas, tout son petit personnel, son petit monde, comme j'appelais. Et un beau jour, je l'ai rencontré enfin dans un bar où tout le monde se détendait après le tournage. On a mis des disques, nous avons dansé, et je lui ai enfin posé cette question qui me brûlait les lèvres. Mais enfin, pourquoi les autres et jamais moi? Vous me détestez, qu'est-ce que je vous ai fait? J'aimerais bien le savoir. Et elle a beaucoup ri, elle m'a dit mais pas du tout, mais au Japon c'est comme ça, vous êtes le metteur en scène, j'aurais l'air... ça n'aurait
ah
pas
oui,
été
de
très
vouloir,
bien de vouloir ceci, vouloir cela vis-à-vis des autres, ça ne se fait pas. J'invite les acteurs qui sont comme moi et ceux qui sont au-dessous pour
bien
vous
sûr.
Aider, sans le dire, mais c'est tout. Là-dessus, je lui ai dit, bah, écoutez, alors, c'est moi qui vais vous inviter à dîner. Elle a dit, vous vous rendez compte si ça se voyait, car le Japon, c'est terrible. Et là a commencé un roman d'amour, il faut bien le dire, mais vraiment digne des plus mauvais petits romans photos qu'on voit dans les magazines.
Oh, c'est tout ce que j'aime. Nous sommes toutes des midinettes, vous savez. Racontez-nous des petits mots de billets sous les portes.
Oui, par des gens qui apportaient des messages, des gens à elle.
Mais des petites japonaises en costume.
Il y avait des rendez-vous dans des restaurants ou dans des hôtels, les portes se ferment et s'ouvrent.
Et vous écrivez en anglais, bien entendu.
Je ne comprenais rien en anglais, mal d'ailleurs, mais en anglais.
Mais dites-moi la vérité, c'était pas du papier comme chez nous. Vous m'aviez
c'était
montré
du papier japonais,
bien sûr. Ah, mais oui, mais ça change
mais
tout.
Mais peu de papier. Vous savez, c'était une sorte de roman vraiment caché. Nous avons réussi à tenir le secret près d'un mois. Et puis après, nous...
Ça a dû être un gros scandale.
À Nagasaki, c'est-à-dire pendant tous les extérieurs, la chose a été tenue assez bien cachée.
Alors et c'était après... vrai typhon sur Nagasaki, dites-moi.
Ah oui, c'était un vrai typhon. Et petit à petit, les choses ont percé. Et comme vous l'avez su après, l'annonce du mariage a provoqué des remous... autre typhon.
Et alors racontez-moi l'arrivée à Paris, car je vous ai vue à ce moment-là, et vous m'avez dit qu'elle était précédée par un bagage, comme on disait à l'époque.
Non, le bagage a suivi.
Ah, le bagage a suivi.
Oui,
mais alors,
bagage
très
est mis
important.
Par un bateau, 2 tonnes. Affolant.
Simplement pour quelques petites robes et kimonos.
Oui, charmant, 80 kimonos. Mais tous mes jouets, je suis comme Pierre Tchernia, que j'ai entendu tout à l'heure. J'ai mes jouets aussi.
Ah oui, parce que c'est aussi le règne de l'enfant, là-bas.
Ah oh, l'enfant est roi.
L'enfant est roi.
Nous en espérons d'ailleurs, bien sûr.
Et comme
ils ne sont pas encore là, en attendant, j'ai quand même fait venir des jouets japonais.
Eh bien écoutez, vous avez raison d'être prévoyant. Et je crois que tout le monde doit vous envier, en tout cas, tous les hommes que je connais rêvent du Japon et de leur petite princesse.
Prendre le thé à deux, comme des amoureux, c'est merveilleux.
Oui, c'est vraiment merveilleux.
Jamais ce breuvage aimé. M'avait si bien charmé.
Charmé, mon cœur tout charmé. Nous bavardons gaiement, c'est un ravissement.
Seuls tous les deux.
Je tiens vraiment à vous remercier de nous avoir tous écoutés, mes amis et moi-même. Et surtout, je remercie qu'on m'ait laissé tant de temps devant moi, alors qu'on sait que je suis très bavarde. Mais enfin, je pense que vous étiez rassurés, puisque vous savez que je ne serai pas seule. Mais enfin, merci pour toute cette heure que vous m'avez offerte et qui est vraiment pour moi un très beau cadeau.
Merci à vous, Micheline Dax. Et avant que vous ne partiez, est-ce que vous voulez avec moi rappeler aux auditeurs qui nous avons reçus,
oui,
qui
le,
vous avez
le
reçu.
Générique très brillant que voilà. Je leur offre,
voilà,
en fait.
Voilà, c'est ça, très bien. Alors, qu'il y avait, nous avons commencé par qui ? Par, je crois, le docteur Lucien Diamant-Berger, c'est
oui,
bien ça ?
Oui, oui, oui.
Bon, et ensuite ?
Le docteur Jacques Soulet.
Oui, ça faisait beaucoup de docteurs.
Ah oui,
remarqué.
Moi, j'aime beaucoup les médecins et la médecine.
Il y avait aussi Henri Dutilleux.
Oui, Henri Dutilleux. Ginette Spanier.
Ginette Spanier, oui.
Maurice Birot.
Je ne connais pas Maurice Birot.
C'est un jeune que je pousse un peu, pour qu'il tombe, bien
bon,
entendu.
Bien sûr. Il n'y avait pas Pierre Tchernia.
Si, si, il y avait Pierre Tchernia.
Il y avait Pierre Tchernia.
Si, 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 si.
Et puis un japonais du nom de... comment s'appelle-t-il
déjà ? Yves-Tiampi.
Yves-Tiampi, c'est ça.
Enfin, il est japonais, enfin, n'exagérons rien.
Par alliance, bien sûr.
Il a eu la bonne idée de venir faire admirer sous nos cieux le plus joli produit du Japon, je crois, qui est sa femme.
Parfaitement. Eh bien, Micheline Dax, vous et vos invités, vous nous avez charmés pendant l'heure dévolue de notre émission Soyez les Bienvenus, dont, je vous le rappelle, Marcel Dinin est le producteur et votre serviteur, Gérard Herzog, le réalisateur.
Cette émission a été diffusée la première fois le 23 octobre 1959 sur la chaîne parisienne. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.